Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, deuxième partie, l'espace, chapitre 4, l'espace et la géométrie. Commençons par un petit paradoxe. Des êtres dont l'esprit serait fait comme le nôtre, et qui auraient les mêmes sens que nous, mais qui n'auraient reçu aucune éducation préalable, pourraient recevoir d'un monde extérieur, convenablement choisi, des impressions telles qu'ils seraient amenés à construire une géométrie autre que celle d'Euclide, et à localiser les phénomènes de ce monde extérieur dans un espace non euclidien ou même dans un espace à quatre dimensions. Pour nous, dont l'éducation a été faite par notre monde actuel, si nous étions brusquement transportés dans ce monde nouveau, nous n'aurions pas de difficulté à en rapporter les phénomènes à notre espace euclidien, et inversement, si ces êtres étaient transportés chez nous, ils seraient amenés à rapporter nos phénomènes à l'espace non euclidien. Que dis-je? Avec un peu d'effort, nous pourrions le faire également. Quelqu'un qui y consacrerait son existence pourrait peut-être arriver à se représenter la quatrième dimension. L'espace géométrique et l'espace représentatif. On dit souvent que les images des objets extérieurs sont localisées dans l'espace et que même elles ne peuvent se former qu'à cette condition. On dit aussi que cet espace qui sert ainsi de cadre, tout préparé à nos sensations et à nos représentations, est identique à celui des géomètres dont il possède toutes les propriétés. À tous les bons esprits qui pensent ainsi, la phrase précédente a dû paraître bien extraordinaire. Mais il convient de voir s'ils ne subissent pas quelque illusion qu'une analyse approfondie pourrait dissiper. Quelles sont d'abord les propriétés de l'espace proprement dit? Je veux dire de celui qui fait l'objet de la géométrie et que j'appellerai l'espace géométrique. Voici quelques-unes des plus essentielles. Premièrement, il est continu. Deuxièmement, il est infini. Troisièmement, il a trois dimensions. Quatrièmement, il est homogène, c'est-à-dire que tous ses points sont identiques entre eux. Cinquièmement, il est isotrope, c'est-à-dire que toutes les droites qui passent par un même point sont identiques entre elles. Comparons-le maintenant au cadre de nos représentations et de nos sensations, que je pourrais appeler l'espace représentatif. L'espace visuel. Considérons d'abord une impression purement visuelle due à une image qui se forme sur le fond de la rétine. Une analyse sommaire nous montre cette image comme continue, mais comme possédant seulement deux dimensions. Cela distingue déjà de l'espace géométrique ce que l'on peut appeler l'espace visuel pur. D'autre part, cette image est enfermée dans un cadre limité. Enfin, il y a une autre différence non moins importante, cet espace visuel pur n'est pas homogène. Tous les points de la rétine, abstraction faite des images qui peuvent s'y former, ne jouent pas le même rôle. La tache jaune ne peut à aucun titre être regardée comme identique à un point du bord de la rétine. Non seulement en effet les objets y produisent des impressions plus vives, mais dans tout cadre limité, le point qui occupe le centre du cadre n'apparaîtra pas comme identique à un point voisin de l'un des bords. Une analyse plus approfondie nous montrerait sans doute que cette continuité de l'espace visuel et ses deux dimensions ne sont non plus qu'une illusion. Elle l'éloignerait donc encore davantage de l'espace géométrique, mais passons sur cette remarque dont les conséquences ont été suffisamment examinées au chapitre 2. Cependant, la vue nous permet d'apprécier les distances et par conséquent de percevoir une troisième dimension. Mais chacun sait que cette perception de la troisième dimension se réduit au sentiment de l'effort d'accommodation qu'il faut faire et à celui de la convergence qu'il faut donner aux deux yeux pour percevoir un objet distinctement. Ce sont là des sensations musculaires tout à fait différentes des sensations visuelles qui nous ont donné la notion des deux premières dimensions. La troisième dimension ne nous apparaîtra donc pas comme jouant le même rôle que les deux autres. Ce que l'on peut appeler l'espace visuel complet n'est donc pas isotrope. Il y a, il est vrai, précisément trois dimensions. Cela veut dire que les éléments de nos sensations visuelles, ceux du moins qui concourent à former la notion de l'étendue, seront complètement définis quand on connaîtra trois d'entre eux. Pour employer le langage mathématique, ce sont des fonctions de trois variables indépendantes. Mais examinons la chose de plus près. La troisième dimension nous est révélée de deux manières différentes, par l'effort d'accommodation et par la convergence des yeux. Sans doute, ces deux indications sont toujours concordantes. Il y a entre elles une relation constante, où, en termes mathématiques, les deux variables qui mesurent ces deux sensations musculaires ne nous apparaissent pas comme indépendantes. Ou bien encore, nous pouvons, pour éviter un appel à des notions mathématiques déjà assez raffinées, revenir au langage du chapitre 2 et énoncer le même fait comme suit. Si deux sensations de convergence A et B sont indiscernables, les deux sensations d'accommodation A' et B' qui les accompagnent respectivement seront encore indiscernables. Mais c'est là pour ainsi dire un fait expérimental. Rien n'empêche a priori de supposer le contraire, et si le contraire a lieu, si ces deux sensations musculaires varient indépendamment l'une de l'autre, nous aurons à tenir compte d'une variable indépendante de plus, et l'espace visuel complet nous apparaîtra comme un continu physique à quatre dimensions. C'est là même, ajouterai-je, un fait d'expérience externe. Rien n'empêche de supposer qu'un être ayant l'esprit fait comme nous, ayant les mêmes organes des sens que nous, soit placé dans un monde où la lumière ne lui parviendrait qu'après avoir traversé des milieux réfringents de formes compliquées. Les deux indications qui nous servent à apprécier les distances cesseraient d'être liées par une relation constante. Un être qui ferait dans un pareil monde l'éducation de ses sens attribuerait sans doute quatre dimensions à l'espace visuel complet. L'espace tactile et l'espace moteur. L'espace tactile est plus compliqué encore que l'espace visuel et s'éloigne davantage de l'espace géométrique. Il est inutile de répéter pour le toucher la discussion que j'ai faite pour la vue. Mais en dehors des données de la vue et du toucher, il y a d'autres sensations qui contribuent autant et plus à la genèse de la notion d'espace. Ce sont celles que tout le monde connaît, qui accompagnent tous nos mouvements et que l'on appelle ordinairement musculaires. Le cadre correspondant constitue ce que l'on peut appeler l'espace moteur. Chaque muscle donne naissance à une sensation spéciale, susceptible d'augmenter ou de diminuer, de sorte que l'ensemble de nos sensations musculaires dépendra d'autant de variables que nous avons de muscles. À ce point de vue, l'espace moteur aurait autant de dimensions que nous avons de muscles. Je sais qu'on va dire que si les sensations musculaires contribuent à former la notion d'espace, c'est que nous avons le sentiment de la direction de chaque mouvement, et qu'il fait partie intégrante de la sensation. S'il en était ainsi, si une sensation musculaire ne pouvait naître qu'accompagnée de ce sentiment géométrique de la direction, l'espace géométrique serait bien une forme imposée à notre sensibilité. Mais c'est ce que je n'aperçois pas du tout quand j'analyse mes sensations. Ce que je vois, c'est que les sensations qui correspondent à des mouvements de même direction sont liées dans mon esprit par une simple association d'idées. C'est à cette association que se ramène ce que nous appelons le sentiment de la direction. On ne saurait donc retrouver ce sentiment dans une sensation unique. Cette association est extrêmement complexe, puisque la contraction d'un même muscle peut correspondre, suivant la position des membres, à des mouvements de direction très différentes. Elle est d'ailleurs évidemment acquise. Elle est, comme toutes les associations d'idées, le résultat d'une habitude. Cette habitude résulte elle-même d'expériences très nombreuses. Sans aucun doute, si l'éducation de nos sens s'était faite dans un milieu différent, où nous aurions subi des impressions différentes, des habitudes contraires auraient pris naissance et nos sensations musculaires se seraient associées selon d'autres lois. Caractère de l'espace représentatif. Ainsi, l'espace représentatif, sous sa triple forme, visuelle, tactile et motrice, est essentiellement différent de l'espace géométrique. Il n'est ni homogène, ni isotrope. On ne peut même pas dire qu'il est trois dimensions. On dit souvent que nous projetons dans l'espace géométrique les objets de notre perception externe, que nous les localisons. Cela a-t-il un sens? Et quel sens cela a-t-il? Cela veut-il dire que nous représentons les objets extérieurs dans l'espace géométrique? Nos représentations ne sont que la reproduction de nos sensations. Elles ne peuvent donc se ranger que dans le même cadre qu'elles, c'est-à-dire dans l'espace représentatif. Nous est aussi impossible de nous représenter les corps extérieurs dans l'espace géométrique qu'il est impossible à un peintre de peindre sur un tableau plan des objets avec leurs trois dimensions. L'espace représentatif n'est qu'une image de l'espace géométrique déformée par une sorte de perspective. Et nous ne pouvons nous représenter les objets qu'en les pliant aux lois de cette perspective. Nous ne nous représentons donc pas les corps extérieurs dans l'espace géométrique, mais nous raisonnons sur ces corps comme s'ils étaient situés dans l'espace géométrique. Quand on dit d'autre part que nous localisons tel objet en tel point de l'espace, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie simplement que nous nous représentons les mouvements qu'il faut faire pour atteindre cet objet. Et qu'on ne dise pas que pour se représenter ces mouvements, il faut les projeter eux-mêmes dans l'espace et que la notion d'espace doit par conséquent préexister. Quand je dis que nous nous représentons ces mouvements, je veux dire seulement que nous nous représentons les sensations musculaires qui les accompagnent et qui n'ont aucun caractère géométrique, qui par conséquent n'implique nullement la préexistence de la notion d'espace. Changement d'état et changement de position. Mais dira-t-on, si l'idée de l'espace géométrique ne s'impose pas à notre esprit, si d'autre part, aucune de nos sensations ne peut nous la fournir. Comment a-t-elle pu prendre naissance? C'est ce que nous avons maintenant à examiner, et cela nous demandera quelque temps, mais je puis résumer en quelques mots la tentative d'explication que je vais développer. Aucune de nos sensations, isolées, n'aurait pu nous conduire à l'idée d'espace. Nous y sommes amenés seulement en étudiant les lois suivant lesquelles ces sensations se succèdent. Nous voyons d'abord que nos impressions sont sujettes au changement. Et parmi les changements que nous constatons, nous sommes bientôt conduits à faire une distinction. Nous disons tantôt que les objets, causes de ces impressions, ont changé d'état. Tantôt qu'ils ont changé de position.